Ajá.
FM 93.1, musicalement vôtre, l'émission pas faite pour tout le monde.
Bonsoir, ce soir je ne suis pas avec Pascal. Nous recevons Blancas, un concert aux couleurs les plus célèbres, au goût de cassis et sur fond blanc puissant.
Bang, bang, bang.
Avec de drôles d'idées rapportées de paysans brumés, abîmés par les regards gênés, mal soignés, à bouffer des cachets. On m'apprenait des mots sans y penser, on disait que j'étais diminué. Moi je sais, la terre où je suis né n'est jamais sur les cartes imprimées. Pas mal gardé, je suis mal carré, mais j'ai les dieux pour me garder. À parler, je sais que j'ai. De liberté, si bien fait, mais on m'enferme à clé. Moi je rêve, si j'ai les yeux bridés, c'est le soleil qui me les a tirés. Toujours bien, on ne sait pas très bien, mais c'est loin, je retournerai bien. Moi je sais, le peuple d'où je suis né n'est jamais dans les livres imprimés. Le champ dont je descends était roi d'un pays de tourments. Je suis né avec de drôles d'idées, protégé par les dieux s'amusés.
Bonsoir, les Blancas.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. Ils sont quatre ce soir.
On est quatre.
Ils ont fait ce grand plaisir. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun.
Eh ben moi je suis Johan, je joue de la guitare dans Blancas et voilà, je passe un bonjour à tous les auditeurs d'Aligre.
Moi je suis Guillaume, le chanteur.
Je suis Bruno, je joue de la basse.
Je suis Cédric, pianiste et humoriste.
Très grand humoriste, oui. Hein, vous allez voir.
Vous entendez,
ils sont
bien quatre, voilà. Alors d'où venez-vous tous?
Au départ, c'est un groupe qui vient du Berry, entre Bourges et Châteauroux, Issoudun. Et puis, au fur et à mesure, on a ouvert nos frontières. Donc, est arrivé Bruno de Nevers, ce qui était pour nous très très loin. Et puis, Cédric est arrivé de Marseille. Et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est un groupe, on va dire, toujours basé dans le centre de la France, mais dont les membres viennent d'un peu partout, quoi.
Oui, très, très quand même régional, avec des racines profondes.
Non, on revendique pas un quelconque régionalisme, absolument. Ouais. Il se trouve qu'on vit autour de Bourges, mais à Issoudun, mais voilà quoi, en c'est un hasard. On aurait pu habiter partout ailleurs.
Il n'y a aucun rapport entre la région et notre style de musique, en tout cas.
Pourtant, il y a des sonorités qui semblent venir parfois de celtiques un peu. Elles viennent de qui?
Ouais, il y a des petits restes comme ça. C'est vrai qu'au début, enfin, on a toujours été des très grands fans de groupes traditionnels. Comme les Chieftains ou des groupes comme ça qui font de la musique irlandaise traditionnelle, ça nous a inspiré des choses au début du groupe et puis peut-être effectivement il y a des petites choses qui sont restées dans la couleur du son, hein. Mais on aime les musiques du monde entier nous, donc et puis on a des racines surtout très rock, très pop rock, donc il y a toujours un petit peu une couleur, une espèce de mélange de plein de choses, plein d'influences, quoi.
Je pense que l'amour des instruments est pour beaucoup aussi. On a toujours aimé justement aussi les instruments du monde entier et donc on avait envie de les utiliser. Enfin, bon, c'est vrai que Bruno achète un instrument inconnu à chacun de ses déplacements. On ne connaît même pas le nom. Mais voilà, alors on essaye de... C'est vrai que ces instruments-là, on essaye de s'en servir parce que ça nous intéressait dès le départ de faire du rock avec des instruments traditionnels.
Là, en ce moment, il faudrait jouer un truc avec les pieds, là, sur scène, une sorte d'instrument qu'on ne connaît pas, donc on est en train de le calmer un petit peu.
Tout qui joue voilà, avec les pieds. C'est pour ça que ça sonne aussi un peu traditionnel, quoi.
Alors, quels instruments vous avez rapportés, par exemple?
De vos nombreux voyages,
de vos lointains voyages. Oui. Voyage, Bruno.
Je ne sais pas, moi, j'ai ramené un ukulélé, j'ai ramené. Un oud.
Très, très beau.
Et un vrai oud qui vient de Damas. C'est pas moi qui l'ai ramené, c'est un ami qui me l'a ramené. Et. Une scie musicale, très jolie la scie musicale.
La scie musicale, j'ai eu droit aussi.
J'ai eu beaucoup de plaintes, donc j'ai arrêté la scie musicale malheureusement.
Beaucoup de plaintes de voisinage, de collègues de son groupe.
Bruno, vous êtes à la basse?
Oui.
Oui. Et quels sont les grands bassistes qui vous ont inspiré ou c'est l'instrument, c'est le rythme, c'est le fond grave qui vous plaît?
C'est le son grave qui me plaît.
C'est le son grave qui vous plaît.
Oui, tout à fait, j'ai fait contrebasse aussi. Et c'est Graham Ebby, le bassiste de Joe Jackson. Et puis bon, sûrement McCartney, enfin des gens comme ça aussi.
Twistall, tout ça, un peu tous les créateurs, les bassistes de rock aussi, j'imagine.
Est-ce que vous aimez ce qui est différent, qui semble entre le normal, l'anormal? Est-ce que vous...
Rien n'est normal.
Rien n'est normal.
Normal. De toute façon, c'est surtout en musique. En musique, tout est bon à prendre. Toutes les pistes sont bonnes à explorer. Tout peut être essayé, quoi. Tout doit être essayé, même. Et ça, on le ressent bien quand on est en studio, quand on fait un album, même on va dire un album, un album de chansons. Quand on est en studio, on essaye toutes les pistes parce que sinon l'album sera complètement inintéressant. Et en essayant des pistes, des fois on trouve des trucs vraiment très très bien qui vont faire sonner différemment un morceau, qui vont l'améliorer. Et donc en studio, on est stoppé par rien de ni moral ni technique. Et s'il faut passer un truc à l'envers pour que ça sonne mieux, on le fera, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans le studio, dans la technique.
Ouais, donc vous êtes des créateurs par petites touches, par tentatives, et puis vous faites des essais, et ensuite vous prenez.
Je crois que ça en studio, c'est vraiment
chose, ouais.
On n'a rien inventé. Hein. Les Beatles ont exploré des pistes incroyables avec en studio.
Beatles ont expérimenté avec leur ingénieur du son, expérimenté des tas d'astuces techniques pour arriver à faire des arrangements qu'on retrouve sur des albums des Beatles en 66. Sgt. Pepper un peu plus tard est l'exemple même de l'expérimentation musicale dans un studio, quoi.
Est-ce que vous aimez les situations de délire?
Oui, d'ailleurs, On se demande si ça va, comment ça va évoluer.
On va puis partir dans... samedi soir, hein, donc on est prêt à tout. Ouais.
Attention. l'émission essaie de vous découvrir par vos goûts musicaux, ce qui vous a marqué, par exemple, dans votre enfance, mais marqué, bien marqué, hein, dans le sens très dans positif, sens, voilà. Ouais. Et vous êtes venu avec un CD enfance, et dans le début, plongé dans le rock.
Je veux dire
quoi.
Pour les auditeurs que Bruno et Cédric n'ont pas eu ce questionnaire, on a répondu, Johan et moi.
Ah. Oui.
Et puisque bon, c'était plus facile parce qu'on habitait ensemble étant amis, étant petit, on habitait ensemble.
Les frères et non moins amis. De les écarter tout de suite de cette sélection.
Donc on a répondu nous tous les deux à ce questionnaire et
sans difficulté puisque vous avez partagé les mêmes lieux et la même musique ensemble.
C'est vrai que pour un album d'enfance, on a amené quelque chose d'un peu particulier.
Oui, c'est de la chanson pour enfants un petit peu énervé.
Ça n'engage absolument pas la responsabilité de Bruno Marande et de moi-même.
Et de Cédric. Je tiens à le préciser. Ouais.
Ah, c'est bien, tout le monde est autonome dans votre groupe.
Oui, ah oui, tout à fait. Mais c'est ça qui fait.
Là, on serre les coudes, tu vois. C'est
l'osmose, c'est ça. Sheena is a punk rocker.
Allegre FM, musicalement vôtre. Nous sommes avec les Blancas.
Et là, on était avec les Ramones.
Des personnages, Joe, Didi, Tommy, c'était eux qui étaient très attachants.
Ah oui, c'est un mythe, quoi, les Ramones. En fait, notre père quand on était gamin, était parti voir un concert des Ramones. Il avait ramené ce double album live, effectivement, qu'on écoutait tout gamin, comme certains peuvent écouter Henry Dess, ou voilà, quoi. Et nous, on écoutait ça. Et ça fait partie des morceaux qui, Sheena is a Punk Rocker, qui nous ont donné envie de faire de la musique et de faire du rock, quoi, vraiment, quoi.
Oui, vous avez baigné dedans dès le départ.
Ouais.
Et est-ce que leur côté provocateur vous a plu? Parce que lorsqu'on parle des Ramones, on parle de.
Il était moins que certains groupes punk de l'époque. Il n'y avait pas l'engagement politique, par exemple, des Dead Kennedys, qui était un groupe punk de la même époque, qui était très connu aussi, où il y avait vraiment une vraie rébellion et un vrai engagement politique. Les Ramones, c'était vraiment, on met un jean, des baskets, on prend trois accords et on fait du rock'n'roll, quoi. C'était.
Le concert des Ramones, il jouait une heure et demie, il faisait 50 chansons. Elle durait en moyenne 1 minute 30, 2 minutes maximum, grand maximum. La China is a punk rocker, elle faisait 2 minutes. C'est vraiment une longue chanson des Ramones, hein. Mais en concert des Ramones, moi j'ai eu la chance de les voir, c'était quelque chose, quoi. C'était 1, 2, 3, 4, et ça enchaînait les chansons pendant 2 heures comme ça. C'était un marathon du rock'n'roll, quoi.
Ouais. Et ça avait un côté un peu paumé de temps en temps, non?
Je sais pas, si on se base du côté chimique de leur consommation,
oui,
journalière,
oui, peut-être. De drogue dans tout genre.
Mais ils ont inspiré toute une génération d'Américains. Par exemple, et on peut dire aujourd'hui que c'est un grand auteur américain.
Ah oui, tout à fait, ouais.
Je parle de celui qui a écrit tous ces films fantastiques, notamment Misery.
Stephen King
est un fan absolu des Ramones.
Bien sûr, mais
il les a rencontrés plusieurs fois et il dit lui-même que les Ramones l'ont inspiré, quoi. Ça représente vraiment une génération des années 80.
Même pour Bono, le chanteur de U2, ouais. Bono a toujours considéré le chanteur des Ramones, c'est Joey, non?
Joey,
comme un des plus grands poètes américains. Non, c'est vrai. J'ai lu dans une biographie qu'il est même allé à son chevet, sur son lit de mort.
Ouais.
Pour lui dire tout ce qu'il pensait de lui. C'est vraiment c'était un grand, hein. c'était quelque chose.
C'était un drôle de groupe quand même.
Ouais. Oui, c'était assez étonnant.
Une grande épopée, quoi.
Nous allons poursuivre. Vous disiez que déjà, ça avait été pour vous très motivant, les Ramones. Ça vous avait envie de faire du rock.
Mmh.
Et puis en fait, vous avez apporté un CD déclic. Et c'est The Who.
Ah ouais,
et
ouais.
The Who, c'est un peu les grands ou les enfants des Ramones.
Non, ça serait plutôt les parents des Ramones, en fait. Les
ouais.
Who.
Les Who sont arrivés très tôt, au début des années 60 en Angleterre. Ils ont été très vite un des emblèmes de la pop anglaise, avec tout cette image mods qu'ils véhiculaient à l'époque. Et voilà, ça c'est pour le côté vraiment pop rock anglaise. On a découvert les Who avant de découvrir tous les groupes punk anglais, etc.
Ça a été vraiment un déclic, ouais. Voir les images d'époque de Pete Townshend, le guitariste, briser ses guitares à la fin des concerts, il y avait toute une espèce de truc qui sortait. Les Who sont nés sur toute la frustration de la jeunesse anglaise dans les années 60, comme les Stones. Sauf que les Who venaient vraiment d'un milieu très populaire, beaucoup plus populaire que les Stones. Et je pense que justement les Ramones c'est les héritiers de cette frustration qui a traversé l'Atlantique et il y a une espèce de renouveau de tout cet énervement dans les années 80 aux États-Unis, et où les Ramones c'était un peu le phare de tout ça. Mais voilà, les Who, ça a été pour nous le plus grand groupe de rock du monde, quoi.
On se rapproche un peu de la France et de l'Europe.
Où, mais... T'avais l'impression que c'était le dernier, quoi.
Ouais, ouais.
Chaque fois, chaque concert était jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à la mort.
Sur scène, oui.
And bells. seen him fall. That Jeff dumb a blind kid sure plays a mean pinball.
Quelle énergie ce batteur Keith Moon. Ah ouais. Disiez.
Ah ouais, je disais, moi, si j'avais été batteur, je citerais volontiers Keith Moon dans mes influences.
Bah, Keith Moon, c'est pareil, c'était jusqu'au bout, quoi. Tout jusqu'au bout.
Il oui, d'ailleurs, ouais. Batteur. D'ailleurs, tous les fous du monde sont
venus de Keith Moon. Non, oui, c'est vrai, ouais, c'était un
joueur vendu.
Il en est mort, quoi, d'ailleurs. Il a, tout ce qu'on lui proposait à l'époque comme substance pour essayer, il essayait tout. Il y a quand même une petite anecdote marrante, c'est que à Woodstock, il était pas deux heures avant le concert, il était.
C'est pas Woodstock, c'est un autre truc.
Ou à Monterey, ou je sais pas où, ou sur l'île de Wight. Je crois que c'est le concert de l'île de Wight, alors. Hein, où il avait pris du somnifère pour éléphant quatre heures avant le concert. Quelqu'un lui avait dit.
Il avait posé des cachets, et en fait c'était les somnifères dans les zoos, et il avait pris ça lui.
Quoi, il était dans un état défoncé et tout, ils ont été obligés de le réanimer, tout ça. Il a fait le concert, c'est un mec, il a brûlé sa vie, il est mort très jeune, Keith Moon.
Oui, dommage, mais en même temps, on en profite, c'est enregistré et c'était une bête de scène, quoi.
Ah ouais, complètement. Ouais.
Un éléphant de la scène, alors on va dire. Est-ce que le rock, pour vous, est un langage ?
Qu'est-ce que le rock ? Alors, c'est une question.
Oui, qu'est-ce que le rock ?
C'est plus un comportement, une façon de vivre, le rock, pour moi.
Ah bon ?
Ouais, il y a du musicien.
Je suis pas d'accord du tout, Cédric.
Ah ouais ? Non. C'est vrai ? Bon, je m'en vais alors.
Tu vas arrêter ça tout de suite.
Ok, d'accord, merci.
Je te l'avais dit, hein, qu'il fallait pas le laisser trop parler.
Non, mais je suis sûr qu'il y a même des musiciens classiques qui sont rock'n'roll à mort.
Bien sûr. Non, mais ça, c'est une évidence. Ouais. Mais si tu veux, je crois pas que ça soit une attitude ou une pause. Ça l'est aujourd'hui pour des tas de. Il y a une vague de plein de jeunes groupes de rock. De très jeunes même, qui sont effectivement dans l'attitude, dans la pose rock.
Oui, dans l'attitude, mais c'est plus une façon de voir une philosophie quelque part, presque, quoi.
Je pense qu'il faut quand même redéfinir un petit peu, enfin revenir aussi à un style musical. Je crois qu'à la base, faire du rock, c'était aussi quelque chose de rebelle. Pour se démarquer, d'être atypique et tout ça. Je veux dire, les groupes de rock qui sont arrivés dans les années 50, avec toutes les polémiques entre Bill Haley et Elvis Presley, tout ça, qui sont arrivés en étant des bêtes du diable. Voilà, c'était le rock and roll, c'était l'œuvre du diable quand même. Il faut replacer ça quand même historiquement.
Toi, Bruno, qui les a connus.
En fait, Henri Salvador disait le rock c'est du jazz mal joué. Mais je crois qu'il a. En fait, c'est ça.
Mal joué pour foutre la merde, quoi.
C'est de la musique faite par des gens qui savent pas en jouer, qui prennent une guitare et puis vas-y, quoi. Et c'est en prise directe avec le truc. Quoi.
C'est la musique
t'as
du
pas,
ventre.
T'as pas de théorie. Il y a pas de théorie. Après, tu théorises.
Bon, donc c'est du vécu et du life.
Ouais. Pour Bruno, c'est du vécu.
Ça veut dire quoi ? Quel est le
Dans votre album, l'album s'appelle Concert, je pense.
Un concert.
Voilà. Et un concert.
Un concert.
Ça a l'air très important, le.
C'est très important parce que
ça sous-entend que c'est tous les soirs comme ça. Mais bon.
Ouais. En fait, on a vraiment voulu enregistrer non pas plusieurs concerts d'une tournée et puis après faire un petit peu la synthèse un montage des meilleurs moments de chaque concert. On a enregistré un concert du début à la fin et c'est ce qu'on a voulu graver sur ce disque. Ouais. Donc il n'y a pas d'artifice, pas de ce qu'on appelle des re-reux où on réenregistre des choses. Il y a pas de voilà, on a juste mixé toutes les prises de ce concert. Donc c'est vraiment du brut de décoffrage, c'est du live. Donc c'est un concert, c'est symboliquement pour montrer qu'on a capté un soir, on a fait une photo instantanée d'un soir et on l'a gravé sur un disque.
Puis c'est pas un concert qu'on a piqué. Tous les concerts qu'on fait ne sont pas comme ça. C'est des morceaux qu'on a montés exprès pour cette soirée-là. C'est un spectacle qui a été monté.
C'est une création, ouais, vraiment. Ouais.
Voilà. Ça a été joué une fois et maintenant les concerts qu'on fait sont un petit peu différents, un peu plus rock'n'roll, un peu plus. C'était vraiment une création vraiment exprès pour ce soir-là.
C'était un grand cadeau pour tous vos fans.
Ah oui, c'est
c'était
sûr.
Conçu
c'était
conçu comme ça.
D'ailleurs,
oui.
Ils savaient par notre site internet blancas.com que je recommande à tout le monde d'ailleurs que l'album sera enregistré ce soir-là le 14 avril 2007 à Châteaubriant près de Rennes au théâtre de Verre, une très belle salle où il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de scène, c'est-à-dire que les gradins descendent et les fauteuils s'arrêtent sur un plancher où les musiciens sont là avec les gens pratiquement, quoi. Donc c'était exactement l'esprit qu'on cherchait pour cet album, pour cet enregistrement live. Et ça a fait vraiment une communion. On n'a pas à jouer devant les gens, mais parmi eux, quoi. C'était vraiment super.
Et on l'entend sur cet album.
Bah, j'espère, en tout cas,
oui,
j'espère.
Oui, on entend ces applaudissements. Hein,
il y a cette proximité.
Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux me te la payer, viens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit, on ne va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis, on cherchait plutôt des amis. Mais quoi? Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Ma gueule, mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. T'imagines que je lui dois tout. Sans elle je n'aurais jamais plané. Sans elle je ne voudrais pas un sou. Ma gueule a bien droit de rêver. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes mes guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure saignée et irritée. Elle ne m'a pas lâché d'une ombre quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Mais quoi? Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi? Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle. Au moins, elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler. Une qui se fout bien de ma gueule.
Et oui, ils en ont tous une de gueule, là.
Ça va, des grandes gueules, du coup.
Quand on fait un concert, le moment où on se fait plaisir, la petite récompense, la cerise sur le gâteau, c'est quand on fait des reprises, quoi. Et pendant ce concert-là, Joanne a fait une reprise de Smashing Pumpkins, Tonight Tonight. Et puis moi, j'avais envie de chanter Ma Gueule, parce que c'est une chanson. En fait, tout le monde connaît le refrain, quoi, ma gueule, quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et je me rappelle quand j'étais gamin, les mômes disaient ça dans les cours de récréation, quoi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et puis quand on écoute bien et qu'on lit les couplets, c'est une chanson magnifique. J'ai vu il y a quelques années, j'ai vu Catherine Ringer chanter Ma Gueule. Et c'est extraordinaire, et vraiment le texte, l'idée géniale de ce mec qui parle de sa gueule comme d'un copain des mauvais soirs, tout ça, c'est je trouve que c'est vraiment un texte. Enfin, moi j'aurais aimé écrire un texte comme ça, quoi, vraiment.
C'est la partie parolier chez vous. Comment vous faites pour choisir?
Moi j'écris les textes la plupart du temps, et puis la plupart du temps Joanne fait la musique, et puis après on voit ensemble ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas, quoi. C'est souvent comme ça.
Non, mais là, c'est vraiment pleine démocratie. Tout le monde peut arriver avec une idée de chanson qui sera.
Sauf le batteur, bien sûr,
parce qu'il
n'est
pas comme nous. Voilà.
Les batteurs ne sont pas des gens comme nous. Mais...
qui ne sera pas validée si effectivement elle vient du batteur ou du pianiste.
L'humoriste.
Mais, l'humoriste. Ouais. Mais voilà, non, c'est, on fonctionne comme ça. C'est la par définition, le travail de groupe, c'est ça, quoi.
Est-ce que ces chansons, comme Ma gueule, vous permettent d'exprimer toute votre fragilité, votre sensibilité ?
Ah bah oui, bien sûr, puisque de toute façon, le texte est là. En fait, chaque chanson peut être... Ce qui est bien, c'est que chaque chanson va rester bien après nous et chaque chanson est offerte aux gens comme un outil. Comme un outil dont on va se servir pour exprimer de la joie ou de la tristesse. C'est ce que tout le monde fait dès le plus jeune âge. De toute façon, quand on est content, on chante souvent un truc, un truc assez joyeux. Et on va volontairement, par exemple, quand on est triste, on va volontairement mettre quelque chose d'un peu down, quoi, toujours. Et je sais pas pourquoi on fait ça. Je pense que c'est peut-être pour exorciser et la joie et la tristesse. Mais en tout cas. C'est un peu les chansons, c'est un peu comme des cachets, des antidépresseurs ou des somnifères, je sais pas, mais qui sont à la disposition des gens dans leur bibliothèque. De toute façon, une chanson, ça fait quelque chose sur le corps.
C'est un support d'émotion, quoi. C'est du concentré d'émotion. Et Ma gueule, elle en fait partie. C'est vrai qu'il faut à l'idée chantant Ma gueule, c'est quelque chose quand même à la base. Après, c'est forcément moins personnel quand Guillaume la chante, mais on arrive tellement à trouver forcément quelque chose qui nous ressemble dans une chanson.
Vous aimez interpréter ?
Ouais, beaucoup, ouais. Ouais. Beaucoup. C'est vraiment très très intéressant d'interpréter les chansons. Justement, c'est cette idée de s'approprier une émotion, une mélodie, une couleur de son, quelque chose comme ça. C'est ça qui est intéressant.
Il y a beaucoup de couleurs, alors je peux dire aux auditeurs que je vois des lunettes de soleil de temps en temps.
On est au soleil, là, non ?
C'est toujours beau ici.
C'est très beau aussi.
C'est toujours beau ici.
Actuellement, Deus, ce rocker, enfin ce groupe
belge,
vous en avez entendu parler, a eu un petit souci avec son label en fait. Que pensez-vous de ces maisons de disques et de ces labels qui contrôlent la communication qui est faite autour des albums et des musiciens ?
Il y a un proverbe qui dit ne cherche pas à te venger d'une maison de disques, Internet s'en chargera. Et c'est pour ça qu'on s'en fout. Non,
mais nous on n'est pas. On est plus concerné par des. Bon, ça c'est des dossiers précis concernant des artistes avec des contrats précis, des choses. Voilà. Avec des artistes et des labels. Nous on n'a pas. On n'a pas eu ce genre de problème, heureusement, jusqu'à maintenant. Parce qu'on a toujours travaillé en étroite collaboration avec nos labels. Et voilà, non, on est plus concerné par effectivement ce foutu dossier du téléchargement et tout ça, qui effectivement reste un problème à résoudre. Mais je crois que juste là, si on parle des maisons de disques, ils sont encore tellement largués, je crois, par rapport à ça, que les solutions sont toujours pas là. En tout cas, la fin du support CD est annoncée. Quoi qu'il arrive, et il va falloir trouver des solutions. Ça, c'est des choses dont on peut parler.
Maintenant, nous avons envie de savoir ce que vous écoutez tous les jours, vous qui écoutez la musique selon vos humeurs. Et,
Du tout, on parlait de Deus, justement, c'est Bruno qui nous a fait découvrir Deus.
Ouais,
Deus. Moi, je ne connaissais pas avant, c'est Bruno Marande donc, qui nous a fait découvrir Deus.
Tu aimes beaucoup
Deus, Bruno.
Oui. Moi, j'avais le premier CD de Deus qui était magnifique, qui a été tiré à 1000 exemplaires, que j'ai prêté, que Jean-Michel Marchand ne m'a jamais rendu. Donc
il faut le dire.
Il s'appelle Jean-Michel Marchand.
Oui, voilà.
On peut trouver à Nevers dans le 58.
Voilà. Et j'avais c'était incroyable quoi. J'avais écouté ça dans leur studio d'enregistrement.
C'était un très très bon groupe. Hein, ça reste.
Et ils sortent un nouvel album là.
Oui, voilà.
Il y avait une idée à la seconde. C'était incroyable. Et donc là ils sortent un nouvel album. Et je crois qu'ils ont joué à Paris hier.
Ils sont annoncés.
Oui, Trabendo.
Au Trabendo. Voilà.
Donc on va écouter votre CD de chevet.
Alors celui du moment.
Ouais. Springsteen, une voix extraordinaire. Vous êtes tous les quatre fascinés.
Oui, on est des grands fans depuis toujours.
Vous disiez hors antenne, un personnage d'une grande simplicité.
Ah oui, puis d'une énergie, c'est incroyable, quoi. C'est quelqu'un qui n'en finit pas d'aimer ça, quoi. Ça se voit quand on le voit sur scène. On voit quelqu'un, 56, 57 ans, qui est en train de courir pendant 3 heures sur scène. Il a plus besoin de faire ça. S'il voulait, il pourrait ne plus avoir à prouver ça, quoi. Et je pense que c'est qu'il aime vraiment tellement ça qu'il le fait encore.
C'est le mec qui ne décevra jamais son public, quoi. Jamais ses fans. Il donnera tout. Pareil. Springsteen, c'est vraiment le showman. C'est genre chaque concert, c'est comme si c'était le dernier, quoi. C'est incroyable. Puis c'est un mec effectivement d'une générosité à tout niveau, qui est, je pense. Supérieurement intelligent, qui a compris beaucoup beaucoup de choses sur le système américain avant des tas de gens. Il fait partie des grands poètes américains quand même depuis les années 70 pour Springsteen. Puis c'est un mec qui a toujours été très très proche des classes de travailleurs et de tout ça. Il s'est toujours battu pour défendre des idées, les classes sociales et tout ça. C'est un mec qui a toujours été très très impliqué, hein.
Depuis des années, Springsteen parle des gens, des ouvriers, des travailleurs, des sans-papiers à la frontière mexicaine. Il parle beaucoup des sans-papiers. C'est quelqu'un qui est, quand il est venu pour la tournée Born in the USA, une chanson que plein de gens n'ont toujours pas comprise en France.
Tout le monde
pense qu'il était
États-Unis.
Fier d'être américain alors qu'il disait exactement le contraire dans la chanson. Quand il a joué à Saint-Étienne au stade Geoffroy Guichard lors de cette tournée-là, et qu'il a entendu des gens parler en disant qu'il y avait énormément de chômage à Saint-Étienne, il a demandé à rencontrer quelqu'un du bureau d'aide sociale et il a fait un chèque de 10 000 dollars comme ça, quoi. Personne l'obligeait à faire ça et voilà, quoi. C'est un mec qui fait attention aux autres encore, quoi, je crois.
Oui, oui. Mais effectivement, même le président américain avait utilisé son...
Oui, mais lui, il a toujours rien compris. à tout niveau, je crois.
Je ne sais pas, je ne pense pas que Springsteen était d'accord, d'ailleurs.
Je crois que le président américain n'a toujours pas compris qu'il était président américain.
Nous allons parler de votre agenda. Alors, il est dense. Très dense.
Alors ça va encore, là, c'est le début de la tournée.
C'est le début de tournée.
Oui, c'est le début. Ouais.
Nous allons citer quelques dates et puis vous donnerez peut-être votre site. Mm-hmm. Le 14 juin à Saint-Génis. Mm-hmm. Le 21 pour la fête de la musique à Avignon.
Ouais, grand concert gratuit à Avignon.
Le 28 à Cesson-Sévigné. Mm-hmm. En juillet. Le 5 juillet à Blois. Le 12 pour les nuits d'été de Guéret. Mm-hmm. Le 13 à Saint-Aubin-Festiroc, le 14 Puppet à Saint-Malo-du-Bois.
Puppet, ouais, c'est à côté d'Angers, de Cholet. Ouais. C'est un gros festival qui est très très bien. Il faut aller là-bas.
Le 8 août, Festival Rocker en Suisse.
Ça, c'est en Suisse, ouais. À Port-en-Truy. Je n'invente pas.
Le 11 août, au Festival Saint-Loup à Guingamp. Le 13 septembre, festival La Poule des Champs. Ça ne s'invente pas non
on
plus.
On va découvrir, on ne connaît pas encore non plus.
Et le 18 octobre à Virzon. Alors votre site, c'est
Blancas.com, tout simplement.
Ouais, www.blancas.com. Et puis il y a un MySpace, comme c'est très, très à la mode en ce moment. Les gens aiment beaucoup naviguer sur MySpace. Donc c'est www.myspace.com/Blancas, tout simplement.
Voilà, et vous pouvez aussi...
On peut laisser des messages. Nous, on y va souvent pour communiquer un petit peu... correspondre un petit peu avec des gens d'univers
divers
et variés.
Nous écoutons maintenant, dans un concert, La couleur des blés.
L'heure de la sortie a sonné. Encore une journée passée à rien penser. Acheter, voler. Et j'ai oublié la couleur des blés. Moi j'ai vu des bateaux couler. Sans un poil levé, sans une voix haussée. Apprendre à ne jamais rien demander. Surtout ne pas regarder les gens tomber. Un peu plus se sent sur les toits. Mais c'est ça le paradis. Si tu vois par-dessus les toits, la couleur est verte gris. Un peu plus se sent à cracher. Mais peux-tu c'est pour la vie. En dedans les gens sont cachés. La nuit tous les chats sont gris. Plein de gens pressés. Pressés d'arriver, se coucher, se lever. Un jour maussade et un jour gai. Suivant l'arrivage, la quantité du blé. Un peu plus se sent sur le toit. Mais c'est ça le paradis. Si tu vas par-dessus le toit, la couleur est verte gris. Un peu plus se sent à cracher. Mais petit c'est pour la vie. En dedans les gens
sont cachés. La nuit tous les chats sont pris.
Voilà. Avec l'autorisation de Blancas, on va tout doucement passer. Oui, oui. Sur la faire écouter, oui, vous êtes venu avec un CD coup de cœur. Vous avez envie de faire découvrir quelqu'un.
Oui, oui, un coup de pouce.
Jason Hakin.
Jason Hakin. Alors voilà, c'est quelqu'un qui vit en France et j'ai toujours pas bien compris d'où il venait. Je sais pas s'il est américain du Nord ou canadien ou anglais. En tout cas, il est extrêmement sympathique. Il est venu nous voir l'autre fois en concert à Vauréal, à côté de Paris. Et c'est une amie, Stéphanie, qui s'occupe de notre site internet, qui s'occupe un peu de lui, qui m'a donné son album et j'ai trouvé ça très bien. Et voilà, on va écouter donc un album de Jason Hakin qu'on peut trouver chez tous les disquaires à Paris.
Writing Home.
L'album s'appelle Writing Home.
Jolie découverte, Jason Hakin. Il nous reste fort peu de temps. Vous êtes,
être
obligés de nous quitter. Donc, je devais faire une petite annonce d'un invité qui était venu il y a quelques semaines et qui passera en concert le 5 et 6 mai, Fred Palem. Donc, je fais cette annonce. Nous allons. Je remercie Enzo. pour tout, tout.
Merci Enzo.
Je vous remercie tous les quatre d'être venus.
Ben, à très bientôt les amis. Je sais pas quoi dire. Si à tous les auditeurs d'Aligre, on va faire une date à Paris à la fin de l'hiver. On est en train de trouver un lieu un peu particulier. On aimerait bien faire ça dans un lieu qui n'est pas une salle de concert habituelle. Donc voilà, ça sera sûrement cet hiver et venez nombreux faire la fête avec nous. À bientôt.
Oui, ben vous nous le direz.
Ouais, ouais, bien, sûr, bien sûr.
L'annoncer.
Merci. On viendra vous l'annoncer personnellement.
Parfait.
D'accord.
Nous le dirons à Élodie. Merci aussi.
Oui, merci Élodie.
Elle vous accompagne partout. Alors pour terminer, nous aimerions que vous choisissiez sur votre disque dans un concert, un morceau pour finir l'émission.
On a envie de vous passer un petit bout de du Coste à côté, qui est la chanson qu'on a extrait en single. Depuis quelques semaines sur cet album. Tu veux en parler un petit peu,
Bah, une chanson qui va rentrer dès ce soir en haute rotation sur Aligre FM.
Tout à fait, ouais.
Voilà.
C'est bon. Donc, ensuite, suivront Dans le Sol Écho pour poursuivre la soirée. Au revoir à tous et merci.
À notre accueil, à bientôt. Salut.
Le deal a commencé, les contrats sont négociés. T'es au Coste à côté, moi je suis pas très loin. Sur le trottoir d'en bas au café, juste quoi. Ça sent la canaille et les jeux à gratter. Les sandwichs à 10 balles, le sourire assuré. C'est là que je t'attends, si jamais tu m'entends. Si tu veux m'aborder, il faudrait décoster. À t'attendre à côté, j'ai l'impression d'être mis de côté. Au propre, au figuré, je suis carrément à côté. À t'attendre à côté, j'ai l'impression d'être mis de côté. Carrément à côté, complètement. T'es au Coste à côté et tu peux pas capter. Les mannequins, le beau monde brouillent sûrement les ondes. Je vais pas t'emmerder, je peux bien patienter. Bientôt dans les forêts, nous irons nous étendre. Moi j'ai jamais aimé les repas pour parler. Les crevettes à un sac, les tomates en sorbet. Peut-être es-tu tombé dans les yeux délavés d'un footballeur, acteur, d'un cycliste, chanteur. À t'attendre à côté, j'ai l'impression d'être mis de côté. Au propre, au figuré, je suis carrément à côté. À t'attendre à côté, j'ai l'impression d'être mis de côté. Carrément à côté, complètement. T'es au Coste à côté, et chez moi c'est la nuit. L'éclat des lieux branchés n'arrive pas jusqu'ici. Je crois que je vais ouvrir la porte du café, retrouver le soleil et toute ma clarté. Je ne vais plus t'attendre, je prendrai des chemins que du Coste à côté, on n'a jamais imaginé. Jamais imaginé. Hey. À t'attendre à côté.
côté, j'ai l'impression d'être mis de côté. Au propre, au figuré, je suis carrément à côté. À t'attendre à côté, j'ai l'impression d'être mis de côté. Carrément à côté.